VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'Égypte du président Abdel Fattah el-Sissi, déjà accusé de museler la liberté d'expression et toute forme d'opposition, a renforcé son emprise sur les médias en bloquant plusieurs sites internet, dont celui de la chaîne Qatari Al Jazeera, le site de la chaîne de télévision et une vingtaine d'autres sites internet qatari ou égyptiens étaient inaccessibles en Égypte depuis mercredi soir. Parmi les autres sites figurent plusieurs médias Qatari comme les journaux Al-Watan ou Al-Raya et des sites politiques islamistes comme celui des Frères musulmans et Quan Online. Le site d'Al-Shark, une télévision favorable aux Frères musulmans basée en Turquie, a également été bloqué, mais l'interdiction vise aussi le site indépendant Madar Maser, connu notamment pour sa liberté de ton sur des sujets comme la corruption ou encore HuffPost Arabi, le site en arabe du média américain de Huffington Post. L'Union européenne est sur le point d'imposer de nouvelles sanctions contre 9 autres officiels congolais. Ces sanctions ont-elles un impact? Jason Stern, le directeur du Centre international de coopération à New York, estime qu'elles sont utiles.
Le système monétaire international est assez globalisé. Par exemple, quand le Trésor américain impose des sanctions sur les officiels en RDC, ce n'est pas seulement pour les avoirs qu'ils ont en RDC, mais potentiellement, c'est toute transaction en dollars américains qui pourrait être bloquée. Et comme, par exemple, beaucoup de transferts en RDC se font en dollars américains, donc si quelqu'un envoie de l'argent de Chine en RDC, normalement, ça transite à travers le dollar. Toutes les transactions, tous les transferts bancaires en RDC pour ces individus pourraient être bloqués. Donc, on a entendu des histoires que le général Numbi, qui était sur une autre liste de sanctions des États-Unis, par exemple, avait du mal à tirer de l'argent de son compte bancaire en RDC, ou le général Kanyama, qui était aussi sur une autre liste de sanctions, avait du mal à accéder à son compte bancaire. Donc, il ne faut pas seulement regarder par rapport aux avoirs qu'ils ont à l'étranger, mais ça peut aussi avoir un impact sur leurs avoirs en RDC.
Jason Stern, le directeur du Centre international de coopération à New York. L'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH et le mouvement citoyen Ras-le-Bol ont appelé mercredi à Brazzaville les autorités à repousser la date des législatives prévues dans moins de 2 mois, et ce afin d'ouvrir un dialogue politique avec tous les acteurs au sujet du pôle, une région déchirée par une crise militaire. À Brazzaville, nous retrouvons notre correspondant Ngoula Ngoussou.
L'OCDH et le mouvement citoyen Ras-le-Bol affirment que les élections législatives ne devaient pas avoir lieu dans les conditions de conflit armé dans le Pool. Franck Ndila Malembe, coordonnateur de Ras-le-Bol.
Nous, le mouvement Ras-le-Bol, on le dit depuis le référendum, on le dit depuis l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous disons qu'il est important pour pouvoir évoluer. À un moment, la classe politique, les citoyens, c'est-à-dire la société civile, s'asseye et règle ce problème-là pour qu'on règle les problèmes de fond et que de façon cyclique, tous les 5 ans, on ne revienne pas en arrière.
Commentant la situation dans le pool, Chardin Kinoani de Ras-le-Bol estime qu'il faut que les différents protagonistes dialoguent pour épargner les civils de cette crise humanitaire.
C'est quand même aberrant et même déraisonnable que l'on dise qu'il n'y a pas de crise dans le pool. Comment on explique les différents morts? Comment on explique que les militaires sont en train de mourir dans cette localité alors qu'il n'y a pas de crise? Il y a un problème. Il faudrait bien qu'on dise la vérité aux gens. Et dialoguer, je pense que c'est une chose très importante. Depuis toujours, les autorités congolaises chantent toujours le dialogue. C'est des grands chantres du dialogue. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne veulent pas dialoguer?
Ces organisations de la société civile n'ont pu se réunir le week-end dernier car leur manifestation avait été interdite par la police. Pour le directeur exécutif de l'OCDH, Trésor Ndila Kende, les violations des libertés d'expression ont atteint leur pic au Congo.
Tout est parti de 2014. 2015, il y a eu un accélérateur. Alors 2016-2017, c'est le pic. Les libertés fondamentales au Congo sont en souffrance. Et nous avons demandé aux autorités de reporter ces élections, très rapidement d'engager des discussions avec les autres.
Même les personnalités pressenties candidates aux prochaines législatives ne savent pas quelle est la suite des événements. Didier Clotaire Boutindi, candidat de la majorité à Goma Tété.
Goma Tété, c'est pas de l'autre côté de Ngangolo, c'est partout. Mais comme il n'y a pas de gens dans ces villages, comment on va aller aux élections où il n'y a pas de gens dans les villages? Nous attendons que ces jeunes qui tiennent les armes doivent arrêter. Parce qu'il faut qu'il y ait l'élection dans le pool. Mais écoutez, mais tel que les gens sont en train de quitter les districts, sont en train de partir ailleurs, mais c'est d'ici qu'il y a l'élection. Dans le district, je suis candidat. Mais on regarde.
Anastasie Makosso, responsable de l'ONG Femmes Leaders du pool, redoute une très faible mobilisation à ces élections.
Ça me paraît difficile. Aller voter, c'est un devoir. Mais on ne le fait que quand on est serein. Aujourd'hui, là, il y a du désordre. Je ne vois pas comment se mobiliser pour aller à une élection.
Le gouvernement, de son côté, continue d'organiser l'opération de révision des listes électorales, tandis que le PCT, le principal parti au pouvoir, désigne demain vendredi ses 151 candidats à ces élections. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En Éthiopie, un journaliste a été reconnu coupable d'incitation à la révolte pour avoir communiqué avec un membre d'un groupe d'opposition considéré comme un terroriste par les autorités. Il est en détention depuis 2015, Eric Manirakiza.
Arrêté en 2015, Getachew Shiferaw a été inculpé en vertu d'une loi antiterroriste pour avoir communiqué via Facebook avec un membre de Jimbo 7, Abebe Beleu, qui vit en exil aux États-Unis, a été condamné par contumace en 2012. Le journaliste Getachew Shiferaw risque 10 ans de prison. Le verdict sera annoncé demain vendredi. Cette loi antiterroriste est critiquée par les défenseurs des droits de l'homme, mais les États-Unis, pourtant alliés de l'Éthiopie. La directrice régionale d'Amnesty International, Muthoni Wanyeki, a dénoncé un nouveau coup porté à la justice. L'arrestation de notre confrère est intervenue lorsque des jeunes Oromo protestaient contre un projet d'expansion de la capitale Addis Abeba. Ces manifestations violemment réprimées avaient fait près de 700 morts. En octobre 2016, le gouvernement a décrété l'état d'urgence et l'a reconduit pour 4 mois en mars 2017.
Changement surprise à la tête du gouvernement en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a remplacé contre toute attente son homme de confiance, le premier ministre Abdelmalek Sellal, en poste depuis 2012, Jacques Aristide.
Les Algériens ont été pris de court, d'autant qu'Abdelmalek Sellal avait commencé des consultations pour former un nouveau gouvernement élargi, entamé au lendemain des législatives du 4 mai. Pour les observateurs, il a été renvoyé pour avoir échoué à convaincre la principale coalition islamiste d'entrer dans le nouveau gouvernement. Cet homme de 68 ans a dirigé 5 gouvernements et avait également conduit les campagnes électorales de Bouteflika en 2004 et en 2009. C'est le ministre de l'Habitat, Abdelmadjid Tebboune, 71 ans, qui est nommé nouveau Premier ministre. Il s'est retrouvé projeté sous les feux des projecteurs après avoir été décoré de l'Ordre du Mérite National l'année dernière, une distinction qui faisait de lui le nouvel homme de confiance du président algérien.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les enquêteurs britanniques progressaient aujourd'hui dans le démantèlement du réseau djihadiste qui a aidé l'auteur de l'attentat de Manchester avec 2 nouvelles arrestations, mais ont regretté des fuites dans les médias américains qui nuisent à leurs efforts. Ce matin, 2 nouvelles arrestations ont donc eu lieu dans la région, ce qui porte à 8 le nombre d'hommes en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attentat qui a visé un concert pop lundi soir, faisant 22 morts et 64 blessés, a annoncé la police. L'OTAN va rejoindre la coalition internationale contre le groupe djihadiste État islamique, a annoncé aujourd'hui son secrétaire général Jens Stoltenberg, à quelques heures d'un sommet auquel va participer pour la première fois le président américain Donald Trump. Cette décision réclamée de longue date par les États-Unis, qui dirigent la coalition anti-État islamique, enverra un fort message politique d'unité dans la lutte contre le terrorisme. Les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance Atlantique se retrouveront cet après-midi pour une cérémonie de remise des clés du nouveau siège de l'Alliance, puis un dîner de travail suivra. Et pour terminer, l'armée philippine bombardait depuis les airs ce jeudi une ville au sud du sud de l'archipel où des islamistes inspirés par l'organisation État islamique ont tué au moins 11 civils, selon les médias, justifiant l'instauration de la loi martiale par le président Rodrigo Duterte. Les combattants islamistes ont commencé, voici 2 jours, à s'aimer le chaos dans la localité à majorité musulmane de Marawi, ce qui a décidé M. Duterte à décréter le régime d'exception dans toute la région de Mindanao. Les autorités expliquent qu'il est très difficile de venir à bout de la crise, même si les djihadistes ne sont plus que 30 ou 40. Ils sont retranchés dans des immeubles résidentiels, ont placé des bombes artisanales dans les rues et pris des catholiques en otage. Le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.